Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Oxford, quatrième et dernière journée de notre présence à Entrevue Belfort. Et pour conduire ces entretiens mis en son par Olivier Legras, je suis accompagné par la journaliste Oikou Sofouoglou. Et nous ouvrons l'antenne en recevant deux invités exceptionnels, puisqu'ils sont rien de moins que les invités d'honneur de cette 40e édition du festival Entrevue, Arnaud Larrieux et Jean-Marie Larrieux. Bonjour.
Bonjour.
Et merci infiniment de nous offrir un peu de votre temps entre deux présentations de vos films au public d'Entrevue, alors que le festival bat son plein au Kinépolis de Belfort, où nous nous trouvons. Alors, comme je viens de le dire, Entrevue propose cette année une rétrospective pour le moins exhaustive de vos films, qui s'étend des courts-métrages des débuts ou de votre premier long fin d'été sorti en 1999 au dernier en date, le roman de Jim, qu'on a pu découvrir en salle l'an passé. Un itinéraire de cinéma qui, à l'image d'une course en montagne, se déploie sur trois décennies avec quelques sommets majeurs. Ne citons ici que La Brèche de Roland, Peindre ou faire l'amour, Les derniers jours du monde ou Tralala. Autant de jalons sur la trajectoire d'une œuvre qui porte la marque du désir. Désir des acteurs, désir des mots, désir des paysages et qui cultive pour notre plus grand plaisir l'art de la réinvention constante, de la surprise, du décalage, du jeu et du déplacement, que ce soit au sein d'un couple, d'une famille ou d'une communauté. Un cinéma éclairé et amateur, généreux et curieux, que les festivaliers viennent approfondir et redécouvrir en masse. Cette semaine, les séances font toute salle comble, preuve qu'il se passe quelque chose. D'où ma première question pour vous qui êtes les petits-fils d'un grand-père montagnard et cinéaste amateur et qui avait toujours pris soin de garder un rapport buissonnier et très directement accessible au médium cinéma. Qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver au pied de cet imposant apic qu'est une rétrospective? Est-ce qu'on n'en vient pas à éprouver à un moment donné une sorte de vertige en plus de la fatigue que j'imagine être la vôtre après toutes ces journées de projection?
Non. Enfin, en tout cas, c'est curieux. Quand on parle de l'âge, je me suis toujours dit la métaphore, c'est un peu comme en montagne. Quand on commence à atteindre un certain nombre de décennies, on se dit, tiens, c'est bizarre comme ça, quand ça fait un moment qu'on grimpe et qu'on regarde derrière, effectivement, il y a, on ne va pas appeler ça le vide, mais enfin, il y a une perspective qui s'agrandit.
Oui, mais en même temps, pour poursuivre sur les montagnards ne s'arrêtent jamais non plus. Hein. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont fait tel exploit, même si ce n'est pas des exploits publics, mais un montagnard qui a fait la face nord de tel sommet, il va laisser passer 6 mois, et puis au bout de 6 mois, quelque chose va lui reprendre, et il aura envie d'aller faire la face sud. Et en plus, comme on revoit les films, là, nous, du coup, j'ai un peu cette impression-là, quand même, que chaque film a été un peu comme une aventure en soi. Alors après, on nous demande, nous, de faire les liens entre tout ça. Alors il y a le lien de la vie, c'est-à-dire nous, on sait comment on passe d'un film à l'autre, quelles aventures font que c'est pas celui-là qui se fait, l'autre après, etc. Mais après, je les vois comme des sommets, comme ça, un peu isolés, dans différents massifs d'ailleurs, entre le Jura, les Pyrénées, voire les Alpes. Et puis, moi, j'arrive à regarder ça comme ça. Tiens, on a fait cette ascension-là, en telle année, avec telle personne. Mais comme des montagnards, je pense que le désir revient. Peut-être quand il y en a un fini, oui, ben on est un peu soit content, soit en tout cas fatigué. Et puis le désir revient. Et ça fait une histoire. C'est-à-dire, c'est pas une carrière, ça fait une histoire.
Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous dites, Arnaud et Jean-Marie, là, en ce moment, est-ce que vous êtes plutôt en train de regarder vers le prochain sommet? Je sais qu'il est question que vous adaptiez le dernier roman de Pierrick Bailly, La Foudre, après avoir déjà adapté le roman de Jim. Où vous en êtes dans la préparation de ce projet? Et est-ce que le fait justement d'avoir une rétrospective et d'avoir du coup cette espèce de moment où vous allez revenir vers ce qui a été fait, ça peut vous apporter une perspective en vue de vous projeter vers cette future cime?
Par moment, ça fait ça. Oui. Non, on a fini d'écrire là, okay. Donc c'est plutôt bien. L'écriture est à un moment où, encore une fois, il faut toujours se dire que les films ne sont jamais gagnés. C'est pas est-ce qu'on va réussir à trouver le film à l'écriture, ensuite faire tout ce qu'il fallait faire au tournage et retrouver le film au montage. Donc là, on est au début plutôt des repérages. Et c'est plutôt, oui, c'est assez agréable tout d'un coup de revoir les films. C'est assez troublant. Ça peut aider.
Moi, j'ai une question par rapport à vos entretiens précédents, parce que j'étais en train de lire et vous donnez souvent cette réponse par rapport aux personnages. Ce sont des personnages qui découvrent un nouveau territoire dès leur arrivée dans une nouvelle région, et c'est à travers leur relation entre les locaux que vous construisez vos récits. Vous souvent adaptez aussi des récits des autres écrits par d'autres écrivains. Est-ce qu'on peut faire une sorte de mise en relation ou un écho entre vos propres procédés en tant que en scénarisant ces récits et vos personnages?
Oui, il y a ce mot impossible à prononcer qui est déterritorialisé. Force, on y arrive.
Merci, monsieur Debord.
Deleuze.
Ah, Deleuze, pardon. Oula, oui.
On a commencé par des études de philo, donc.
Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire, de la même manière qu'on déterritorialise le personnage dans nos territoires, du coup, autant nous, on va se déterritorialiser dans l'histoire de notre. Mais c'est jamais non plus par hasard. Dans les romans de Pierrick, on trouvait un pays, on trouvait une manière de raconter les gens. Et comment les personnages avançaient dans ces romans, forcément, il y a quelque chose qui nous correspond, qui n'est pas totalement étranger. Déterritorialiser n'est pas rendre étranger.
Non, il y a un thème, on n'en a pas parlé tant que ça, comme ça, pour le formuler. C'est le thème de la rencontre, mais qui rejoint ça. Le thème de la rencontre, c'est quand même une histoire de création aussi. Enfin, il y a quelque chose. Ça c'est un thème qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, qui est même sans doute le thème de nos films.
Alors, la rencontre qui a pour cadre souvent la montagne. Et comme chez votre grand-père, votre désir de cinéma, justement, il est consubstantiel à votre envie, votre désir de montagne, de la parcourir, de la filmer, d'y amener vos mots, vos histoires, vos acteurs. La montagne, c'est un paysage très particulier. C'est par excellence le paysage de l'impermanence et de l'imprévisible. Comment ça se filme, la montagne? Comment ça se cadre et comment ça entre dans un cadre?
On aime bien considérer ça pas en général, c'est-à-dire c'est pas la montagne en général. C'est des endroits, c'est des lieux. Pour ça qu'on tient beaucoup au repérage. C'est pas juste c'est joli par ici. C'est tel endroit porte un esprit, on peut dire un esprit, une impression, des sensations. Et du coup, amener une fiction qui pourrait totalement se passer ailleurs. Dans le roman de Jim, quand la révélation est faite au fils que son père n'est pas son père, on est au sommet d'une montagne. Ça pourrait être une conversation dans une cuisine. Qu'est-ce qui fait que ça se passe là? Qu'est-ce que ça change que ça se passe là? Et on aime bien ce que ça laisse. On se dit, cet enfant se souviendra toujours de ce jour-là. Et au lieu de se souvenir, tiens, c'était dans la cuisine de maman, il se souviendra de cette promenade sur ce sommet. Donc ça marque une histoire, ça l'imprègne fortement, quoi. On aime bien ça.
Et pardon, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose?
Non, oui, je suis d'accord.
Et la montagne dans vos films, c'est un agent provocateur qui silencieusement, de manière implicite, va amener les personnages à vivre des expériences presque mystiques, parfois miraculeuses, une révélation en tout cas, qui va les faire accéder à une sorte de vérité existentielle, parfois presque, qui peut être de l'ordre du sensoriel, du sexuel ou même du métaphysique. Donc je me demandais si pour vous, vraiment, vous ne prenez pas la montagne comme la chose auquel vous allez frotter le reste de tout ce que vous allez y amener de par votre imaginaire, à travers votre imaginaire.
Non, mais quand vous dites ça, par exemple, c'est que on enlève la comédie sociale. C'est-à-dire qu'en montagne, ça tient un quart d'heure, une demi-heure, j'allais dire au bout de 4 heures, ce qui relève du social a commencé à tomber. Donc il reste, alors oui, on peut appeler ça soit de la métaphysique, soit de l'intime, je pense que ce théâtre-là, montagnard, c'est aussi un théâtre, c'est pas... On en a plein d'utilisations différentes, d'ailleurs, selon les films. Mais je pense que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas pareil quand on est dans le jeu d'une ville, des regards, ce qu'on appelle le social, la hiérarchie, le travail. Ça, on aime bien ça. Je crois que depuis le début, on travaille beaucoup avec ça.
Quand vous parlez du côté social, j'ai l'impression que vous avez une grande admiration du cinéma en tant que tel, sans ce côté, lié au genre, au côté social ou de cinéma populaire. Mais cette admiration pour la philosophie, vous avez, par exemple, vous citez Deleuze, mais il y a Dominique Noguès ou toutes les œuvres de Godard. Donc, ce sont des grands noms qui sont, quand on regarde vos films, et ils sont peut-être pas forcément avec leur style n'est pas là, mais quand même leur esprit est là. Donc comment faire ces rencontres? Parce qu'on parle aussi de rencontres et aussi il y a, je pense que les rencontres des styles, des esprits, je suis vraiment curieuse de savoir.
Enfin, en tout cas, ça a été un gros passage quand pff, appelons ça des maîtres, des pères, tout ce qu'on veut, mais de se dire bon, on va faire nos propres films, alors qu'il y a ces gens comme ça, mais c'est précisément par l'esprit, au fond, de se dire bon, ben, on est nourri par un certain esprit, et après, voilà, chacun fait son chemin, mais en toute liberté, et fort de. C'est quand même des incitations à tracer son propre chemin. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est dit là, sur ces territoires-là, relativement vierges, on a vu assez peu d'histoires humaines se dérouler dans des territoires de montagne, ou alors c'est des quasi-documentaires, ou alors c'est les exploits de celui qui arrive à faire tel sommet. Alors, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On a pris, disons, ce qui se passe dans les relations humaines classiques, mais on les a transposées. Donc on est un peu des cinéastes géographes dans des territoires où on n'a pas du tout l'habitude de les voir. Ce qui fait que ça donne un éclairage différent à la fois sur le territoire où ça se passe et puis sur les propres histoires entre les gens qui prennent une couleur, comme disait Arnaud, différente.
Et il n'y a aussi pas d'autorité, donc les sentiments d'autorité par rapport aux cinéastes. Donc vous n'essayez pas de leur montrer, regarde combien bien je fais. Donc ce n'est pas de pastiche, donc peut-être c'est ça l'originalité.
Oui, mais en plus, les gens que vous citez, il ne s'agit pas de leur rendre hommage dans des films. Il se trouve qu'on a été nourri de leurs pensées, mais on ne fait pas le film pour transcrire leurs pensées. Et même Godard, par exemple, on dit Godard intellectuel, mais c'est Godard qui a les plans les plus sensuels du cinéma pour l'éternité. Filmer un arbre, un lac, un oiseau... Il n'y a pas mieux que Godard, hein, encore pour l'instant, même sur le cinéma muet, on dit que c'est un mec bavard, mais le cinéma, les sons, la musique, tout ce qu'il a fait avec ça, c'est pas du tout intellectuel, c'est du cinéma au sens très fort. Donc nous, il ne s'agit pas de rendre hommage à ces gens, mais on en a été nourri de la puissance de ce qu'ils disent et transmettent.
C'est intéressant ce frottement entre le territoire et les mots dans votre cinéma. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, ce paysage dont on parle depuis le début de notre entretien, la montagne dans votre cinéma, il ne verse jamais dans le cliché grâce aux mots que vous mettez dans la bouche de vos acteurs. Et cette langue, elle décale, elle déplace, elle dévie la perception même de ce paysage et l'emmène vers quelque chose de l'ordre d'un territoire qui serait plus intime, du coup, plus...
Oui, ça crée l'effet théâtre aussi, tout à coup. De la même manière qu'au théâtre, on enlève la vie réelle, ben, on se sert un peu de la montagne pour ça aussi. On enlève la cuisine, le café, le téléphone, la porte qu'on peut claquer, la salle de bain, on enlève tout ça. Et on fait une petite scène de famille qui tout à coup prend une dimension. Déjà, on se dit, mais à quelle taille ils font ? À quelle taille est leur histoire, là, au milieu ? Y compris faire les films dans ces endroits-là. Des fois, on se dit, waouh, le cinéma, on n'est pas grand-chose, là. Une petite rafale et il n'y a plus personne.
Bah, c'est vrai qu'on sort de La Brèche de Roland, parce que c'est exactement la description du film La Brèche de Roland. Parce que c'est vrai qu'on en a fait d'autres. Par exemple, là, on s'apprête à montrer Les Derniers Jours du Monde. Mais finalement, on y revient, là on disait c'est notre film sur les villes, mais par l'apocalypse imminente, voire effectif dans le film, les villes retournent à une sorte d'état naturel, il n'y a plus d'électricité, elles sont désertées, donc on les regarde comme des vieux monuments, comme les restes d'une civilisation. Et finalement, c'est vrai qu'on avait beaucoup jubilé à filmer les villes comme des territoires géographiques qu'on réexplore. À la fin, il n'y a carrément plus de lumière, et c'est une nuit totale et on est presque dans une grotte.
Vous avez dit que vous êtes des cinéastes géographes. Est-ce que le corps humain est aussi un territoire que vous cherchez à explorer avec vos films ? Le corps physique, la physicalité des acteurs et des personnages plutôt.
Oui, mais on se rend compte en même temps qu'on ne fait jamais des scènes très sensuelles. Enfin, on n'appuie pas, ou alors c'est traité comme un tableau sensuel ou... Mais il y a plein de cinéastes qui rentrent dans le rapport physique, qui vont filmer la peau de très près, les yeux, les larmes. On s'approche jamais trop près de ça non plus. Mais sous forme de tableau, là je pense plutôt au roman de Jim, la rencontre amoureuse entre Emmerich et Florence, on la traite quand même comme ça. Elle est très sensuelle, mais sans aller trop dans la matérialité, qui toujours au cinéma, c'est compliqué, trop près, trop loin. Et peut-être que les personnages finissent par disparaître si on va trop près. Il y a des cinéastes qui le font très bien. On aime beaucoup les films de Kechiche, par exemple. Il va très très loin avec ça. Ça lui a été reproché parfois, mais on aime beaucoup comment lui le fait. Nous, on garde la distance, on ne perd jamais l'histoire et les personnages, en essayant de quand même dresser un tableau de la sensualité qui se déroule dans la scène.
Et au fil de notre discussion, j'ai l'impression qu'il y a un geste qui est important dans votre travail, c'est celui d'enlever. Parce qu'on parlait d'aller vers une forme d'épure tout de suite. Par exemple, je pense à ce que disait Robert Bresson, vider l'étang pour attraper les poissons. Et il se trouve que jeudi, vous avez présenté un film de Gus Van Sant, son film peut-être le plus expérimental, Jerry, où là, il a sculpté dans la matière même du format du long métrage de cinéma pour ne plus retenir que quelques éléments vraiment saillants. J'imagine que c'est pas par hasard si vous avez choisi ce film qui vous était offert dans le cadre d'une carte blanche par entrevue.
C'est vrai. Bon, là, en l'occurrence, le thème c'était l'amitié. Il y avait ces deux personnes et qui auraient pu aussi être deux frères. Et c'est un autre paradoxe que de. On aime bien plutôt définir notre fraternité comme une amitié plutôt que comme un lien naturel comme ça donné pour toujours. C'est le thème du désert aussi, oui, mais effectivement.
Oui, puis le film est quasiment muet. Je ne l'ai pas revu, mais. Alors, sur le fait de retrancher, mais ça, c'est, quand c'est réussi, c'est la puissance du cinéma. Oui. Le spectateur se fait son film. Le réalisateur dirige et il crée des reliefs dans cette relation entre deux garçons qui ne font que marcher. Il crée des reliefs uniquement par les plans, par la mise en scène. Des fois, ils sont ensemble, des fois, ils sont seuls, des fois, ils sont loin l'un de l'autre et puis ils se rapprochent. Et là, c'est le spectateur qui mouline tout seul sur les rapports des deux personnages.
Hein. Et à l'écriture des films, le geste d'évider, il intervient aussi dans le fait, par exemple...
Je me demande bien comment c'est écrit, Jerry, par exemple. Mm-hmm. Il faudrait voir le scénario.
Je pense que c'est des principes. Hein. Ça ne fait pas 120 pages. Hein.
Non.
On serait peut-être étonné parce que je sais que vous, peut-être au début de votre carrière de cinéaste, vous aviez tendance, vous l'aviez déjà dit, à trop écrire, en fait, d'écrire quasiment un roman en lieu et place d'un scénario qui serait extrêmement lisible, avec une forme de clarté.
C'était la longueur de ce qu'on voulait raconter. Pas tant. On n'a jamais fait de on se revendique de la littérature dans la manière dont les gens parlent, c'est-à-dire on les fait parler. On n'aime pas trop le côté dialoguer comme dans la vie, alors avec plein de mots inutiles. Donc on stylise assez nos dialogues, mais on ne fait pas d'immenses descriptions. Justement, on ne va pas se mettre à décrire pendant des pages et des pages et la montagne. Nous, on sait quand elle sera là et elle aura la couleur du jour où on tournera.
Non, on a un vrai problème avec les personnages secondaires.
Voilà.
Et le premier scénario, c'était ça le problème. Dès qu'il y avait une rencontre, on l'a développé.
Quand on a parlé de Renoir tout à l'heure, l'idée de Renoir, c'est de dire qu'on peut s'intéresser à tout le monde et que la personne qui parle là, pourquoi rester sur le personnage principal et on aurait peut-être envie de bifurquer, de connaître un peu la vie du personnage secondaire. Donc ça, c'est un travail dans le choix des comédiens, mais voire même dans le récit. Bon, l'histoire d'un récit qui se suit, c'est un peu hiérarchiser les premiers rôles, les deuxièmes rôles, mais l'air de rien, et quand on pourra peut-être conclure là de ça, on s'aperçoit que ne serait-ce qu'au toucher les hiérarchies de ces choses-là, ça par exemple, c'est faire un peu de politique au cinéma. C'est juste toucher aux hiérarchies. Tout d'un coup, s'intéresser, mettre le paysage peut-être plus en valeur à des moments que le personnage principal, s'intéresser à ce qui est à côté. Et ça, c'est des choses qui peuvent se faire doucement, souterrainement. Et ça, c'est assez passionnant.
Merci Jean-Marie Larieux, merci Arnaud Larieux. On vous souhaite une très belle fin de festival ici Entrevue, qui continue de vous montrer vos films jusqu'à dimanche. Merci.
Merci.
Fluxfort. Mécanisme velouté. Mixage fusionnel.